Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les communs numériques. Si vous vous intéressez un peu aux logiciels libres et plus globalement aux enjeux politiques et sociaux autour de l'informatique, il s'agit sans doute d'une notion que vous avez déjà entendue. Et pourtant, je suis sûr que, comme moi, vous seriez bien en peine d'en donner une définition claire de cette notion riche et complexe. Nous allons explorer aujourd'hui avec nos invités ce que sont ces communs numériques. Également au programme, logiciels libres et traçage, et les mystérieux bugs joyeux. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Connu, chargé de mission affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libreavoue.org, vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour, avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 17 mai 2022, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, ma collègue Isabelle Lavani. Salut Isa.
Salut Étienne, bonne émission à tout le monde.
Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Nous allons commencer par la chronique de Véronique Bonnet, Partagé et bon. Une chronique sur le thème du logiciel libre et du traçage, enregistrée il y a quelques jours. Je vous propose donc d'écouter Véronique et on se retrouve dans une dizaine de minutes, toujours sur Cause commune, la voie des possibles.
Logiciel libre et traçage. Le logiciel libre permettrait-il de limiter le traçage, c'est-à-dire la récolte de nos données, de nos métadonnées, dans des intentions soit strictement commerciales et irrespectueuses, soit malveillantes, au sens d'une surveillance qui irait au-delà même d'intérêts commerciaux déjà très discutables, puisqu'on peut être amené à être harcelé par ceux qui, achetant nos données, nous ciblent et nous profilent. Alors commençons d'abord par nous étonner, puisque la trace dans l'histoire de la philosophie, bon, dans l'histoire de l'archéologie, dans d'autres disciplines, est bien sûr une notion positive. La trace, l'ombre, l'image, image veut dire initialement trace aussi, sont des indices. Et donc les traces permettent de faire des hypothèses. La trace est précieuse pour réfléchir. Le paradoxe est que dans nos pratiques informatiques, on suit, lorsque il n'y a pas donc de démarche prudente, on suit lorsqu'un internaute, lorsqu'un utilisateur a fait une requête, par exemple, on va suivre ses traces pour harceler, pour prétendre anticiper les désirs et surtout pour faire de ces traces ce qui est monnayable. Il va y avoir revente des informations à des entreprises. Alors, les dispositifs qui permettent de récolter les traces sont multiples. D'abord, l'opacité du code, du fait des brevets logiciels. Comme on ne sait pas exactement ce que fait un programme, lorsque ce programme relève de l'informatique propriétaire, alors bien évidemment, il est facile de suivre quelqu'un pour l'amener à être un consommateur, soit captif, soit très influencé. On peut penser aussi aux DRM, des e-books. On peut penser aux portes dérobées qui sont des dispositifs qui portent atteinte aux personnes. Notre adresse IP accompagne toutes nos requêtes qui peuvent être gardées en mémoire et être agrégées à d'autres informations qui nous concernent et ne devraient concerner que nous pour aboutir à des profilages, à des ciblages. On peut penser aussi aux envois de mails, sans qu'il soit besoin que l'on connaisse d'ailleurs le contenu du mail. Ce qui importe, c'est de savoir, pour ceux qui récoltent les métadonnées, à qui on écrit, à quelle fréquence, quand. Ce qui relève bien donc de la métadonnée, c'est-à-dire de la structure de la donnée, qui permet de disposer de graphes, de dessins, de nos fréquentations, ce que l'on nomme le sociographe. Il se trouve que le logiciel libre permettrait de limiter ce pillage de notre vie privée à deux titres. Alors le premier, on pourrait dire que les libristes sont des lanceurs d'alerte concernant l'écriture du code, dont la transparence est pour eux essentielle. Deuxième point, les libristes proposent à l'utilisateur de rester le chef d'orchestre de son informatique. Alors je m'explique. D'abord, le premier axe, lanceur d'alerte, nous sommes sensibilisés à la possibilité qu'un programme soit intrusif lorsqu'on n'a pas accès à son code source, et bien sûr un danger, au sens où ne pas avoir accès à un code source, c'est pouvoir se trouver piégé, c'est ne pas savoir exactement ce que le programme exécute. Il se trouve que nous avons répertorié 4 dangers qui se rapprochent de ce profilage ou de ce traçage. Alors le premier, bien sûr, les brevets logiciels. À moins de faire une rétro-ingénierie complexe qui est déjà très difficile pour les spécialistes, s'il y a copyright, s'il y a brevet logiciel, alors il y a une opacité qui permet de faire de nos requêtes et des traces laissées par nos requêtes tout et n'importe quoi. Deuxième danger, les DRM. Les DRM des e-books qui, par exemple, enregistrent ce qu'un lecteur regarde dans un livre, ce qu'il lit plusieurs fois, les passages qu'il laisse de côté, ceux auxquels il revient toujours. Troisième danger, la vente liée, qui rend difficile, puisque la plupart du temps, on achète des ordinateurs qui sont déjà équipés d'une informatique propriétaire. Il se trouve que cette vente liée rend parfois difficile parce qu'il y a des dispositifs qui empêchent cela, qui rend parfois difficile de basculer un ordinateur sous GNU Linux, s'il est déjà équipé autrement. Enfin, danger de l'informatique déloyale qui se présente faussement comme une informatique de la confiance. Deuxième axe, il se trouve que les libristes, étant donné cette mise en garde contre les 4 dangers, notamment, il se trouve que les libristes proposent aux utilisateurs de rester des chefs d'orchestre. Et pour cela, il est important d'assurer la lisibilité du code en publiant le code source pour assurer les 4 libertés, exécuter le programme en toute confiance, l'étudier, l'améliorer, distribuer des versions modifiées ou non à ceux qui, recevant ces programmes de l'informatique libre, sauront qu'ils sont moins traqués, moins surveillés, moins harcelés. Alors d'où vient ce terme de chef d'orchestre ? Pourquoi dire que les libristes proposent aux utilisateurs de rester des chefs d'orchestre ? C'est un philosophe du XXe siècle Gilbert Simondon qui utilise cette image dans un texte qui est important pour nous, qui s'appelle « Du mode d'existence des objets techniques ». Alors, quelle est la thèse qu'il y défend ? Il montre que la perfection technique, ce n'est pas l'automatisme, c'est précisément l'indétermination. C'est le fait qu'une machine ou un objet technique puisse être facilement associé à différents usages et notamment puisse être adapté. Et Simondon parle alors de machine ouverte. Machine ouverte qu'il oppose aux machines fermées, celles dans lesquelles l'utilisateur n'a absolument aucune initiative et contraint de se fier à des automatismes qu'il ne comprend pas. Je vais lire dans ce texte de Simondon sa définition de la machine ouverte. Elle suppose l'homme ou l'humain comme organisateur permanent, comme interprète vivant des machines, les unes par rapport aux autres, et qui ont besoin de lui, comme les musiciens ont besoin d'un chef d'orchestre. Lanceur d'alerte, nous sommes un peu comme ces chefs d'orchestre qui ont besoin, les savoir-faire des musiciens étant disponibles, de constituer des variantes parce que à ce moment c'est telle musique qu'on a envie d'écouter. Étienne, te sens-tu un peu chef d'orchestre dans toutes tes pratiques de sensibilisation ?
Disons que j'essaie de l'être au maximum, mais j'ai aussi conscience que c'est avec l'aide d'autres personnes qui peuvent avoir sur certains points de plus grandes connaissances que moi, et en étant dans la mesure d'échanger avec eux et de leur faire confiance sur des bases saines de transparence, notamment que tu as évoquées, que je peux me sentir, on va dire, pleinement chef d'orchestre dans mes usages.
Et il me semble que cette image est intéressante puisque elle encore, elle joue sur toutes les dimensions, c'est-à-dire que le logiciel libre n'est pas simplement ce qui permet de faire des opérations, mais aussi ce qui permet de mettre une forme de musique dans sa vie, qui est peut-être ce rapport aux autres, en effet.
C'est très joliment dit. Je vais me permettre une très légère précision par rapport à ce que tu as dit au moment dans ta chronique, tu as parlé de brevets et de droits d'auteur. Il me semble peut-être juste important de préciser pour les personnes qui ne sont pas familières de ces notions qu'effectivement ce sont deux institutions juridiques distinctes, hein, qui ont leurs propres règles, leurs propres fonctionnements. Et que d'un côté, effectivement, le droit d'auteur, le copyright aux États-Unis peut servir d'assise, hein, pour des éditeurs de logiciels, les auteurs de logiciels, pour priver les utilisateurs et les utilisatrices de leurs libertés fondamentales, de leurs quatre libertés essentiel, hein, d'utilisation, de modification, de partage, de redistribution. Les brevets, en ce qui concerne les logiciels, sont eux intrinsèquement liberticides, parce que c'est vraiment l'intelligence même, l'intelligence logicielle qui cherche à accaparer et à empêcher. Mais dans les deux cas, bien sûr, qu'on parle de logiciels privateurs ou de brevets logiciels, qui sont d'ailleurs illicites en Europe, quand on parle de l'un ou l'autre, on est vraiment effectivement dans des problématiques d'aliénation de nos droits qui nous empêchent d'être chef d'orchestre et d'avoir cette musique commune que tu as si bien décrite.
Exactement. Ce que tu dis là me rappelle tout à fait le juriste Lessig qui dans Cowdy's Law montre que c'est parfois l'architecture logicielle elle-même, lorsqu'elle est extrêmement intrusive, qui prétend faire la loi.
Bah, le logiciel fait loi. La question, c'est comment cette loi a-t-elle été conçue sur des bases démocratiques saines, comme dans le cadre du logiciel libre, ou de manière, on va dire, tyrannique, pour reprendre un terme fort, comme c'est le cas finalement de logiciels privateurs. Un grand merci, Véronique, pour cette nouvelle chronique partagée et bon. Je te dis au mois prochain pour une nouvelle chronique. Donc.
Très belle journée à toi, Étienne.
Belle journée, Véronique. Au revoir.
Nous sommes de retour sur Cause Commune, la voix des possibles. Nous venons d'écouter la chronique de Véronique Bonnet, partagée et bon, sur le thème du logiciel libre et du traçage, enregistré il y a quelques jours. Et je vous propose à présent de faire une pause musicale. Après cette pause, nous parlerons de commun numérique. Mais avant cela, je vous propose d'écouter Wanderer par Ona. On se retrouve juste après. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Nous venons d'écouter Wanderer par Ona, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, CC BY.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons passer à notre sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur les communs numériques. Vaste sujet. Et j'ai le plaisir pour cela de passer la parole à Laurent Costi, vice-président de l'April, chroniqueur régulier de Libre à vous, et chargé de mission sur l'axe éducation et communs numériques au CMEA, qui va donc animer ce sujet. Je vous rappelle que vous pouvez participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Laurent, je te laisse la parole.
Merci Étienne. Alors normalement nous sommes connectés avec Claire Brosseau à distance et Sébastien Broca. Claire, tu nous entends ?
Oui, bonjour.
Bonjour Claire, Sébastien ?
Oui, bonjour à toutes et à tous.
Très bien, merci à tous les deux. Alors je vais vous présenter et puis nous engagerons ce vaste sujet que sont les communs numériques. Je resituerai un petit peu la logique, le cheminement de l'émission. Alors Claire Brosseau, tu es sociologue, facilitatrice des communs depuis une dizaine d'années dans divers contextes, actions de plaidoyer et de médiation avec l'association VECAM ou Coexiscience, c'est pas facile à dire, je l'avais relu plusieurs fois mais c'est pas facile à dire. Tu interviens pour des conseils, de la formation et de la recherche avec Social Transfert par exemple, c'est bien ça ?
C'est ça, oui tout à fait.
Très bien. Sébastien, donc toi tu es maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université Paris 8 et auteur de Utopie du logiciel libre.
Je confirme.
Parfait, très bien. Donc aujourd'hui, on a découpé un peu l'émission en deux temps. Hein. On va d'abord évoquer les communs dans un contexte beaucoup plus large que la seule question du numérique. Ça semblait important parce que c'est une notion qui effectivement a ressurgi depuis les années 2000, on va dire, enfin un peu plus tardif. C'est important de resituer donc cette définition globale pour après effectivement aborder dans un second temps plus particulièrement la question des communs numériques. Alors dans un premier temps, ce sera plutôt Claire qui parlera, mais évidemment que Sébastien peut intervenir s'il a quelque chose à rajouter. Et puis dans un second temps, ce sera plus sur la question numérique, donc plus Sébastien. Mais voilà, encore une fois, on est dans une discussion ouverte, donc il ne faut surtout pas hésiter à intervenir. Alors, la première question que j'avais envie de poser à Claire, c'était est-ce que Claire, tu peux nous donner la définition de ce que sont les communs d'une manière générale, donc bien au-delà de la seule question du numérique ?
Absolument. Alors on peut dire de manière assez lapidaire que ce sont des activités collectives qui visent à gérer ensemble et à faire perdurer des ressources. Alors ces ressources, elles peuvent être soit matérielles, comme la terre, l'habitat, l'eau, ou bien elles peuvent être immatérielles, comme un code génétique ou informatique. C'est précisément le cas du logiciel libre, un contenu pédagogique, de l'énergie, etc. Pour qu'il y ait commun, il y a trois piliers traditionnellement, une communauté, une ressource et des règles d'accès et de partage de cette ressource.
Très bien. Est-ce qu'on a des exemples très concrets qui surgissent en tête là pour donner un exemple tout simplement ?
Absolument. Dans plein de domaines, il y a des communs, par exemple l'habitat participatif, tout ce qui est coopérative économique, tiers-lieu autogéré, jardin partagé, publication en libre accès, logiciel libre, hein, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et puis, on a des étendards dans le logiciel libre, comme Wikipédia, par exemple, ou OpenStreetMap. Dans l'habitat participatif, on va avoir des tas de collectifs qui se généralisent en ce moment et qui sont fer de lance de ce mouvement. Dans la coopérative, on a les SCOP, etc., etc.
Merci. Alors, il y a peut-être une question qui me vient à l'esprit. Finalement, on parle parfois de bien commun et de bien public. Est-ce que tu peux peut-être préciser la différence entre ces deux formules ?
Alors, la différence, elle est plutôt à faire entre les communs, le bien commun qui fait plutôt référence à une dimension philosophique équivalente à l'intérêt général. Avec les biens communs qui renvoient plutôt à une notion de commun, comme plutôt sous l'angle de la propriété, puisque les biens, c'est des ensembles de ressources en économie qui renvoient au fait que ce sont des biens non exclusifs, c'est-à-dire qui peuvent être partagés, mais en même temps dont les ressources peuvent s'épuiser. Et en droit, ça correspond à des ressources qui sont techniquement, juridiquement non appropriables. Donc ça, c'est plutôt le côté bien commun qui renvoie à la notion de propriété. Et puis la notion de commun qui, elle, fait davantage référence au faire ensemble, à l'agir commun, aux usages de la ressource, les communs dans ce cas de figure. Et c'est aujourd'hui la notion qui est la plus galvaudée, les communs. Ils sont vivants parce qu'il y a des humains qui les portent et qui sont en relation avec des écosystèmes. Et alors, pour répondre plus spécifiquement à la question des biens publics, les biens publics, ça rend, en économie, c'est la catégorie qui surplombe les biens communs, mais d'une manière générale, c'est les grandes ressources comme l'air, l'eau, la terre, qui ne sont elles aussi pas appropriables.
D'accord. Je me permettais de poser la question parce qu'effectivement, c'est parfois des formules qui sont proches, qu'on amalgame et qu'on a parfois une difficulté à voir un peu où se situe chaque objet, quoi. Donc merci d'avoir précisé ces éléments. Alors tu as commencé à évoquer la question des différents types de communs. Est-ce que tu peux expliciter plus de manière plus avancée ces différentes catégories qu'on peut distinguer dans les communs ?
Alors, on parle de catégorie, il s'agit plutôt de domaine, c'est ça? De domaine, de thématique? Par oui. catégorie?
Oui, oui, oui.
Il y a beaucoup de domaines thématiques. Ceux qui ont le plus d'audience, si j'ose dire, ce sont les communs numériques, évidemment. Ensuite, on trouve les communs urbains. Les communs urbains, ce sont des collectifs d'habitants qui vont se placer comme acteurs d'un espace ou d'un habitat. Je reviens à l'idée d'habitat participatif que j'ai exprimé tout à l'heure. Les communs urbains, on va les trouver aussi dans les occupations temporaires d'espaces en friche, par exemple, où là, on est plus du côté du droit à la ville. On va avoir des communs dans le domaine de la finance, vraiment aujourd'hui tous les secteurs, dans l'énergie aussi, il y a un secteur qui est très très impliqué, ce sont les communautés d'énergie partagée qui aujourd'hui se développent à travers l'angle des communs. Donc il y a vraiment beaucoup beaucoup de domaines qui sont aujourd'hui soit en voie de se communaliser, si je peux me permettre de parler ainsi, et ou déjà institué en tant que tel.
D'accord, oui, effectivement. Alors, on parle aussi de communs dans la santé. Tu n'as pas évoqué la santé.
Absolument.
Mais peut-être le point que je voulais soulever, parce que dans le logiciel libre, c'est vrai que ça a été un combat à une époque. C'était cette question de. Alors, il y avait eu un documentaire à l'époque qui s'appelait Copier n'est pas voler, pour expliquer qu'on n'était pas dans le monde matériel et que finalement, la copie dans le monde numérique n'était pas quelque chose d'équivalent à la copie dans le monde matériel. Hein. Quand on prend le vélo de quelqu'un d'autre, il ne l'a plus, alors que dans le numérique, on a quelque chose de dupliqué, de multiplié.
Oui, tout à fait. Alors, je vois bien les deux catégories qui sont en jeu. Donc, en effet, quand on parle de ressources naturelles, et c'est l'approche que développe une des théoriciennes, sinon la plus grande théoricienne des communs, Elinor Ostrom, les communs, ils sont forcément non exclusifs et rivaux, c'est-à-dire qu'ils peuvent être utilisés, leurs ressources peuvent être utilisées par tous de manière non exclusive, mais comme je le disais tout à l'heure, les ressources qui sont en jeu, elles s'épuisent. C'est le cas par exemple d'une pomme, quand on la mange, elle s'épuise. C'est le cas d'un pâturage dont l'herbe serait très très bonne, et quand il y a une surexploitation, elle s'épuise. En tout cas, c'est l'idée de la stratégie des communs de Garrett Hardin. Et à l'inverse, du côté des communs de la connaissance, et c'est la raison pour laquelle c'est difficile de catégoriser les communs sous l'angle des biens communs et de la propriété exclusive, parce que du côté des communs de la connaissance et du numérique, plus on consomme cette ressource qui est le savoir et la connaissance, plus à l'inverse, elle s'amplifie, elle se développe. Et dans le cas des logiciels libres, on a vu par exemple que l'ouverture des codes sources a permis de créer des œuvres de manière itérative et collaborative. Et Wikipédia, pour reprendre cet exemple, se crée grâce à la contribution de tout un tas de milliers de personnes qui permettent à la ressource de croître et non de se réduire.
Voilà, oui.
Quelque chose peut-être.
Bien sûr, Sébastien, je t'en prie.
Oui, donc juste pour dans la continuité de ce que vous venez de dire, pour dire aussi qu'entre ces différents domaines des communs, ça, qu'il y a aussi des recoupements. Parce que si on pense des exemples très simples comme un hackerspace ou un Fab Lab, par exemple, ça sera à la fois un commun urbain qui a une dimension matérielle et qui existe dans le tissu urbain, et puis par ailleurs qui va être fondé sur beaucoup de communs numériques, qui va utiliser beaucoup de communs numériques au niveau logiciel et autres. Donc voilà, donc faut pas non plus, je pense, penser qu'il y a des frontières trop étanches. Et par ailleurs, sur ce que tu évoquais, ce que vous évoquez tous les deux, hein, qui est tout à fait vrai, la différence entre des biens rivaux et des biens non rivaux, hein, des biens informationnels qui ne courent pas le risque de s'épuiser lorsqu'on les consomme. C'est vrai, mais j'ajouterais quand même une petite précision, qui est de dire qu'en fait le statut de commun de ces différentes ressources, il dépend toujours fondamentalement d'une décision humaine, d'un arrangement institutionnel. C'est-à-dire que bon, on le sait tous, les biens informationnels, ils ont beau être non rivaux, eh bien on peut quand même les privatiser, on peut faire le logiciel propriétaire. Donc au final, ce qui compte, c'est quand même la décision d'une personne ou d'un collectif de considérer ces biens comme des communs, d'en faire des ressources partagées. Et ça, finalement, c'est valable aussi bien pour les biens informationnels, on va dire, que pour les biens matériels ou physiques.
Merci pour ces précisions, Sébastien. Effectivement, mais c'est vrai que j'avais aussi en tête de pointer ce qui s'était produit finalement, ce passage entre le matériel et l'immatériel, où à un moment donné, par exemple, les industries du divertissement avaient voulu finalement décalquer le modèle qui existait dans la réalité pour l'appliquer au numérique. Et on nous assénait finalement des messages qui étaient, par exemple, copier, c'est voler. Sauf que dans le numérique, finalement, copier, c'était multiplier. Donc on avait quand même une tentative de poser un modèle qui existait dans le matériel, vers le numérique, alors qu'en fait c'est des mondes différents. Donc effectivement, ça imposait aux industries du divertissement de devoir repenser leur modèle et de penser différemment. Mais c'était une transformation que toute la société embarquait. Mais c'était complexe à prendre, enfin comme prise de conscience pour tout le monde, même pour les utilisateurs et les utilisatrices. Voilà. Mais de fait, effectivement, comme tu le rappelles si bien, Sébastien, c'est bien la question des trois piliers qui définissent le commun, quoi.
Oui, le pilier de la gouvernance est quand même un des plus importants, sinon le plus important. Hein. S'il n'y a pas de règles aussi pour le libre accès, on peut se retrouver avec des postures ou des communs qui sont développés et qui peuvent être à l'encontre de la liberté qu'ils ont prônée au départ. C'est-à-dire que cette ouverture peut générer une appropriation exclusive s'il n'y a pas de règles.
Tout à fait. Merci Claire de cette précision. Alors on va avancer un peu dans les questions. On se posait la question de l'histoire des communs. Alors évidemment ça peut sembler récent. En tout cas c'est quelque chose qui a un peu ressurgi dans les années 2000. Mais l'origine est peut-être un peu plus lointaine. Est-ce que tu peux nous donner les premières dates ou les premières notions liées aux communs? Comment ça s'est créé? Comment cette notion est apparue?
Oui, alors souvent on fait revenir l'histoire des communs au Moyen-Âge, voire même à l'Antiquité, où à l'époque il y avait des biens communaux, c'est-à-dire des possibilités pour les paysans qui étaient octroyés par les seigneurs laïcs ou ecclésiastiques de pouvoir disposer de terres ou de pouvoir avoir des droits d'utilisation de certaines ressources sur ces terres, par exemple le droit d'affouage pour le bois, le droit de glanage pour les fruits qui étaient résiduels après les récoltes, etc. etc. Et l'histoire des communs veut qu'il y ait eu un premier mouvement d'enclosure qui correspond à...
Alors enclosure, il va falloir que tu expliques, Claire, excuse-moi.
Oui, tout à fait. Donc, le premier mouvement d'enclosure, c'est l'équivalent d'une fermeture et ça correspond à une privatisation des terres massives à l'échelle de l'Europe au moment du haut Moyen-Âge, et lesquelles privatisations arrêter ou en tout cas entamer sérieusement la dynamique des communs qui étaient à l'œuvre auparavant. Et puis les communs ont rejailli avec le numérique depuis maintenant une trentaine d'années. Donc il y a eu une première période, Sébastien développera certainement un peu plus tard, une première période où les acteurs du numérique ont parlé d'un second mouvement d'enclosure par le fait que le savoir et la connaissance n'étaient pas en libre accès grâce à la diffusion d'Internet, et s'en est suivi donc des créations qui permettaient ce libre accès, comme les logiciels libres ou des licences ouvertes, des Wikipédia et j'en passe. Et Ensuite, on a eu, à partir des années 2010, je dirais, tout un mouvement qui a fait des plaidoyers pour les communs à l'échelle internationale. C'est l'époque des associations qui s'impliquent, y compris dans le numérique, mais pas que, qui généralisent aussi la notion de commun. En France, on va voir se diffuser, par exemple, ces plaidoyers grâce à diverses associations comme l'April, VECAM dans le domaine du numérique, la FING également, qui diffusent la notion de commun, mais cette notion se diffuse aussi bien au-delà du numérique. Et puis là, je dirais qu'on assiste à un troisième mouvement là depuis les années 2020, où on voit s'institutionnaliser la notion de commun dans divers domaines, et a fortiori dans le numérique. Je pense que Sébastien y reviendra tout à l'heure.
Très bien, merci. Alors effectivement, tu évoques 2010, qui correspond finalement au prix Nobel d'économie qui a été remis à Elinor Ostrom en 2009, c'est bien ça ?
Je pense
que c'est une femme voilà, qui a obtenu le prix Nobel. Je pense que c'est important de le souligner. Elles ne sont pas si nombreuses que ça. Donc, j'ai un peu parcouru sa vie, mais du coup, elle a travaillé toute sa vie de chercheuse sur cette notion de commun.
Oui, tout à fait. Elle était économiste institutionnaliste. Elle a développé la notion de commun. En partie en réaction à ce qu'avait écrit, en tout cas dans l'histoire intellectuelle, on la met souvent en contrebalançant la position de Garrett Hardin, qui était un écologue des années 70, qui avait écrit la tragédie des biens communs, et qui partait du principe que plus on consommait des ressources, et plus elles s'épuisaient, et cette surexploitation contribuer précisément à la dégradation de ces ressources. Et donc Elinor Ostrom, à partir de sa notion de common pool resources, a dit qu'à partir du moment où on fixait des règles d'accès et des règles d'usage pour les ressources, alors elle se préoccupe principalement des ressources naturelles, comme je précisais tout à l'heure. Et donc à partir du moment où on fixe ces règles d'accès, ces règles d'usage, alors elle fixe 8 règles de gouvernance bien spécifiques qui vont de la définition de quotas pour des ressources naturelles comme les poissons dans une mer par exemple, à la définition de règles de fonctionnement des communautés dans lesquelles s'inscrivent l'activité de gestion de ces ressources, règles qui vont de la prise de décision à la gestion des conflits, des aménités, etc. Donc il y a 8 principes de gouvernance qu'elle applique à la gestion de ces ressources naturelles.
Très bien. Alors effectivement, l'histoire que raconte Garrett Hardin, c'est pseudo-scientifique, mais elle a quand même fait pas mal de dégâts dans les esprits, et en particulier les communautés libérales qui utilisaient ce récit pour défendre l'idée que de toute façon on pouvait pas mettre quelque chose en commun, quoi. Il fallait privatiser. C'était un peu sur ça que les gens se basaient et voilà, ce discours est resté 30 ans, 40 ans comme support pour vendre la logique libérale et privatrice, quoi.
Tu vois là-dessus, je peux, Laurent ?
Bien sûr, je t'en prie.
Pour compléter, parce que ce que l'a très bien dit Claire, mais ce qui est singulier, je trouve, avec Elinor Ostrom, c'est que c'est une économiste qui fait pas des modèles mathématiques abstraits, mais une économiste qui part du terrain, en fait. C'est-à-dire que ce qu'elle a étudié, c'est vraiment des communautés locales qui vont gérer des pêcheries ou des forêts ou des pâturages, des systèmes d'irrigation. Et vraiment, toute sa théorie, en fait, elle est construite pour expliquer comment ça se fait que des communautés donc situées réussissent à gérer de façon pérenne des ressources naturelles qui vont être mises en commun. Et donc, c'était finalement une bonne manière de contrebalancer ou de contredire le récit complètement finalement déconnecté du réel qui était fait par Hardin dans son article, qui lui part d'un exemple complètement abstrait, qui est celui d'un champ dans lequel tous les éleveurs ont le droit de faire paître leurs troupeaux, et puis il dit chacun va ajouter des bêtes à son cheptel, donc ils vont tous profiter au maximum de la ressource commune, et ils finiront par épuiser le pâturage et par entraîner la ruine de tous. Et donc ça, en fait, c'était une histoire qui est complètement abstraite et qui ne correspond pas, en fait, ni à la manière dont historiquement les communs se sont organisés, parce que historiquement, les communs, c'est pas des ressources comme ça où il n'y a pas de règles et chacun peut faire ce qu'il veut. C'est des ressources qui sont, encore une fois, comme l'a dit Claire déjà, hein, qui sont gérées en commun, qui sont gouvernées en commun par des communautés qui mettent des règles. Et donc, en fait, ce qu'a bien montré Ostrom, c'est à la fois que Hardin, disons d'un point de vue théorique, il avait fait une confusion entre une absence totale de propriété, une absence totale de règles, et en fait ce que sont réellement les communs, à savoir des propriétés partagées avec des formes de gouvernance collective et des règles d'usage mises en place. Et Ostrom, elle a aussi montré que voilà, concrètement, regardez, ça marche. Enfin, en tout cas, ça peut marcher. Elle dit bien que ça marche pas tout le temps et qu'il y a des règles pour que ça marche. Mais en tout cas, parfois, ça marche de gérer des ressources en commun, y compris des ressources physiques, dont Hardin nous avait dit bien à tort qu'il était impossible de les gérer autrement que par le marché ou éventuellement par la nationalisation et par l'État.
Merci. Alors,
oui, je pense qu'il faut préciser un point, c'est que la propriété collective n'est pas forcément la garantie d'un commun. C'est-à-dire que dans le commun, c'est quand même l'usage de la ressource qui prime. Et ce n'est pas parce qu'il y a une propriété collective de la ressource qu'il y a nécessairement un commun. C'est pas une condition, c'est ça que je veux dire. On peut très bien avoir une concession et des usages qui sont octroyés par un propriétaire qui n'est pas qui est privé. C'est un élément de clivage, notamment dans la communauté des communs, mais pour autant, il y a différents cas de figure qui existent et on prend souvent en exemple, enfin moi je prends souvent en exemple le four à pain qui pouvait être autrefois la propriété du boulanger ou la propriété de la collectivité, de la commune, ou la propriété de personne, mais qui pour autant bénéficiait à tous parce qu'il y avait des règles d'accès et des règles de fonctionnement de la communauté villageoise pour pouvoir utiliser le four à pain.
On revient aux trois piliers qui étaient évoqués en début d'émission et qui définissaient les communs. Donc c'est bien de reboucler avec cet élément-là. Bon, l'épisode Gareth Hardin, c'est aussi une belle démonstration de l'importance du suivi des articles scientifiques et de la relecture par les pairs. Hein. C'est vrai qu'il est resté longtemps un article de référence sans relecteur et sans contradicteur. Donc là, c'est une belle leçon en science et en histoire. Peut-être dernière question sur l'aspect un peu plus global des communs. Donc ils sont souvent présentés comme une voie alternative entre le tout État et le tout privé. Est-ce que tu peux expliciter un peu cette manière de voir les choses? Et puis, est-ce que dans un monde où la propriété privée est posée comme symbole lourd de la réussite, avoir une grosse voiture, une grosse maison pour la famille, etc., faire émerger les communs n'est pas une gageure? Claire?
Je ne sais pas si c'est une gageure, mais en tout cas, ce sont des modes d'organisation sociale qui sont de plus en plus déficientes dans la société. Et les communs se généralisent, donc je pense que ça correspond aussi à un besoin, notamment parce que le public, comme le privé, ne permettent pas d'accéder à un système équitable et pérenne d'allocation de ressources. Hein. Le modèle utilitariste, il est quand même remis en cause par les communs, celui de l'homo economicus aussi, qui est fondé principalement sur la pensée libérale, où la propriété individuelle exclusive et privée domine. Bon, on voit bien que c'est un modèle qui n'est pas pérenne, et par ailleurs, du côté du public, nationaliser ou rendre ses ressources la propriété de l'État, si j'ose dire, on a bien vu que ça ne permettait pas non plus une pérennité de ces ressources. Et donc, les acteurs des communs, en effet, se disent plutôt à l'interface du public et du privé, de manière à créer une troisième voie, en quelque sorte, pour pouvoir avoir la main sur la gestion et l'allocation de ces ressources à l'échelle de petites communautés, mais à l'échelle de grandes communautés aussi quand il s'agit de commandes de connaissances.
Merci Claire. On va faire une pause musicale. Je vais redonner la main à Étienne. Alors j'espère que les gens ont pu s'approprier un peu la définition des communs. C'est pas quelque chose de simple. Hein. Il faut parfois un peu du temps pour appréhender la définition, mais je pense qu'on a quand même contribué à éclaircir les choses. Merci en tout cas Claire.
C'est en tout cas passionnant. Et effectivement, nous allons faire une pause musicale. Je vous propose à présent d'écouter LSIA par Angst Breaker. Et on se retrouve juste après sur Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1.
Nous venons d'écouter LSIA par Angst Breaker, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, CC by SA.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
Je vais donc rendre la parole à Laurent Costi, Claire Brosseau et Sébastien Broca pour nous parler de commun numérique.
Merci Étienne. Donc dans une première partie tout à l'heure, nous avons essayé de définir ce que sont les communs. Nous avons apporté pas mal d'éléments pour essayer d'appréhender cette notion qui n'est pas toujours simple. C'est ce que je disais avant la pause. Là, on va se consacrer plus particulièrement à la question des communs numériques. Et la première question revient donc pour Sébastien. Est-ce que Sébastien, tu peux nous expliquer le lien qui existe entre logiciel libre et commun, tout en sachant qu'on l'a déjà un peu évoqué?
Oui, alors bon, je pense que le lien fondamental, on va dire, c'est quand même la question de l'accès ouvert ou du partage des ressources informationnelles contre les restrictions posées par les droits de propriété intellectuelle. Donc bon, ça c'est le lien fondamental. Après, il me semble que le lien, il faut aussi le voir de manière historique et par rapport à ce qu'on a déjà un peu évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire ce qui s'est passé à partir du début des années 80, qu'on a appelé donc ce deuxième mouvement des enclosures, où l'information et la connaissance ont été de plus en plus privatisées, soumises à des droits de propriété exclusifs. Et là, c'est vrai qu'il y a un rôle historique et une forme d'antériorité du logiciel libre, au sens où finalement, le logiciel libre, il est créé en 83 ou 84 par Richard Stallman. Et en fait, c'est assez tôt, finalement, et donc c'est c'est le logiciel libre, c'est un des tout premiers mouvements finalement à réagir à ce mouvement, à ce deuxième mouvement des enclosures, et à mettre en place une véritable alternative pour construire donc ce qu'on va appeler les communs, mais qu'on n'appelle pas encore comme ça à l'époque, en tout cas pas dans le monde du logiciel libre, contre ces restrictions posées par la propriété intellectuelle. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu aussi, il y a eu de ce fait une, on va dire, un rôle un peu matriciel hein, du logiciel libre dans l'émergence des communs numériques, puisque c'est souvent à partir de son exemple que se sont développés ensuite, plutôt à partir des années 90, différents mouvements, différentes luttes sociales pour s'opposer au renforcement des droits de propriété intellectuelle, que ce soit la promotion du libre accès aux publications scientifiques, le mouvement Open Access, évidemment la création des licences Creative Commons, la naissance de Wikipédia au début des années 2000, mais aussi d'autres luttes qui peuvent paraître un peu plus lointaines, hein, comme la lutte pour l'accès des populations du Sud aux médicaments brevetés, notamment autour des trithérapies dans les années 90, la défense des semences paysannes contre les variétés hybrides. Bon, voilà, il y a plein de luttes en fait assez différentes, mais qui ont eu quand même pour dénominateur commun le fait de réagir à ce grand mouvement de privatisation de l'information. Et c'est vrai que le logiciel libre, quelque part, a souvent été finalement une sorte de grand frère, ou a joué un rôle précurseur quand même dans ce mouvement de résistance aux excès de la propriété intellectuelle.
Merci pour tous ces exemples. C'est vrai que c'est souvent une question qu'on se pose, comment le logiciel libre a impacté un peu toute cette logique des communs. On reviendra peut-être un peu sur la question tout à l'heure. Est-ce que les logiciels libres sont systématiquement qualifiables de communs numériques, selon la définition des communs du coup?
Alors la réponse rapide et rigoureuse, c'est non. Pourquoi? Enfin, pour une raison très simple, en fait, c'est parce que un projet de logiciel libre, on va dire, qui est mené par une seule personne, c'est pas un commun au sens strict, parce qu'il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de gouvernance démocratique de la ressource, donc on n'a pas les trois éléments définitionnels des communs que Claire rappelait tout à l'heure. Donc il peut y avoir des logiciels libres qui ne sont pas proprement parler des communs, et on va dire que le cœur du logiciel libre, c'est quand même la question des quatre libertés, la question de l'accès à l'information, de l'accès au code source en l'occurrence. Et c'est plus ça, enfin, en tout cas c'est d'abord ça, on va dire, plus que la promotion d'un modèle communautaire qui permet de gérer des ressources partagées, ce qui est plutôt la définition des communs qu'on va trouver par exemple chez Elinor Ostrom. Alors après, évidemment, il y a de nombreux recoupements, hein, et les deux aspects souvent coexistent, c'est-à-dire que d'une part, le mouvement du logiciel libre défend le droit fondamental des utilisateurs à accéder au code source. Et par ailleurs, on sait bien qu'il y a de nombreux projets de logiciels libres qui ont un fonctionnement communautaire, auto-organisé, qui répond à la définition des communs. Et donc on va dire que c'est pas systématique, qu'il y a souvent des logiciels libres qui sont aussi des communs, mais qu'il peut aussi y avoir des logiciels libres qui ne respectent pas vraiment les critères de définition des communs.
Alors, c'est vrai que la question d'après, tu y as déjà un peu répondu, hein, comment les logiciels libres ont nourri le renouveau des communs et vice-versa. Tu peux répondre peut-être plus précisément à la question de savoir comment Elinor Ostrom a observé cette question des communs numériques. Elle était plus sur le vivant, si j'ai bien entendu Claire tout à l'heure, mais est-ce qu'elle a quand même étudié ces communautés, ces logiciels?
Oui, je vais répondre sur ça, et puis sur le vice-versa, on va dire. C'est vrai que sur la manière dont les logiciels libres ont nourri les communs, j'ai un peu répondu. Après, peut-être que ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment les communs ont pu nourrir le logiciel libre. Sur Ostrom, déjà, c'est vrai qu'elle, à la fin de sa vie, hein, elle s'est intéressée dans les années 2000 aux communs numériques, aux communs informationnels. Donc elle est aussi venue sur ce terrain-là, et elle-même a su tirer comme ça des parallèles ou établir des continuités entre ce qu'elle avait fait pendant des années sur les communs physiques et ce qui se passait à ce moment-là dans le monde numérique. Et puis l'autre chose que je voulais dire peut-être, c'est que finalement...
Si je peux permettre, c'était en association avec... Allô ?
Oui, vas-y Claire, je t'en prie.
Si je peux me permettre, c'était en association avec Charlotte Hess, qui était particulièrement férue de numérique et qui est encore vivante, hein, si je ne m'abuse.
Merci pour cette précision. Et donc sur la manière dont les communs ont nourri le libre, je pense qu'il y a, c'est intéressant aussi, parce que je pense quand même que le fait de, comment dire, d'intégrer un peu, ou en tout cas en partie, ce mouvement plus large pour les communs, ça a pu ouvrir le monde du libre sur d'autres mondes sociaux, sur d'autres luttes. Alors ça n'a peut-être pas toujours été facile, hein, quand vous placez, dans les années 2000, sont retrouvés dans la même pièce des gens des communs naturels, on va dire, et des gens du logiciel libre. Voilà, il y avait des différences culturelles, il y avait peut-être des incompréhensions, peut-être que les informaticiens trouvaient que les gens qui parlaient de Mother Earth, c'était un peu compliqué ou c'était n'importe quoi. Mais quand même, en fait, je pense que ça a quand même été intéressant aussi pour le monde du logiciel libre de s'ouvrir sur un certain nombre de luttes qui parfois provenaient de mondes assez différents. Et puis je pense aussi qu'il y a un deuxième apport finalement des communs pour le livre, c'est de pousser un peu la réflexion sur les questions justement de gouvernance démocratique au sein des projets. C'est-à-dire que vraiment la dimension commun, ça apporte cette dimension de réflexion sur comment on s'auto-organise, qu'est-ce que c'est qu'une gouvernance démocratique, comment on fait pour mener un projet communautaire. Et ça permet aussi de s'éloigner un peu de ce modèle qu'on a, qui est souvent caricaturé dans le monde du logiciel libre, hein, celui du benevolent dictator for life. Donc cette idée que finalement le projet, c'est quand même il est en quelque sorte accaparé par une personne charismatique ou par son créateur qui va ensuite retenir un certain nombre de prérogatives. Et donc c'est vrai que la dimension commun permet d'ouvrir quand même à ces questions de gouvernance beaucoup plus collective au sein de certains projets de logiciels libres.
Oui, pour traduire, donc dictateur à vie, hein, c'est souvent un terme qui est repris parfois dans les communautés de logiciels libres. Donc c'était pour traduire ce que tu avais évoqué tout à l'heure. Effectivement, je vais aussi appuyer ce qu'a dit Claire, hein, par rapport à Elinor Ostrom, qui est une figure qui a travaillé sur les communs. Mais de fait, dans tous les travaux sur les communs, c'est souvent beaucoup de communautés de chercheurs et beaucoup de personnes qui travaillent ensemble. Hier, il y avait la présentation de la deuxième version du dictionnaire des communs, et je demandais à la responsable, enfin à l'éditeur, aux presses universitaires de France, combien de personnes avaient travaillé sur ce dictionnaire des communs, et ils étaient plus de 300 chercheurs, enfin 300 personnes à travailler sur ce sujet-là. Donc on voit bien que, en tout cas, les chercheurs essaient d'appliquer sur ce sujet-là les théories qu'ils essayent de mettre en avant. Voilà, c'était une petite parenthèse, mais ça me semblait important de le préciser. C'est vrai que Elinor Ostrom, en plus, c'est une femme chercheuse, donc on essaye de la mettre en avant, et c'est très bien, mais il faut bien penser qu'il y a plein de chercheurs qui travaillent sur ce sujet-là. Merci Claire de l'avoir rappelé. Peut-être la question suivante, c'était concernant les relations qu'entretiennent les promoteurs des communs et les promoteurs de logiciels libres. Alors on a souvent le sentiment de quelques coopérations, mais on pourrait quand même se dire qu'elles pourraient être plus fortes au bénéfice des deux communautés. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Sébastien ?
Oui, bah alors je pense que tu as raison. C'est vrai que la terminologie des communs a eu un peu de mal parfois à s'imposer dans le monde du libre. Alors après, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de créer des passerelles, hein, et Claire l'a rappelé, je voudrais aussi y insister, hein, notamment en France, le rôle d'une association comme VECA, mais et aussi de l'April ou d'autres, hein, c'est parti. C'est ces gens qui ont voulu comme ça créer des ponts et des passerelles entre ces différents mondes. Bon, ça s'est aussi passé un peu différemment aux États-Unis, là autour beaucoup autour de juristes, hein, comme Lawrence Lessig, Kai Benkler, James Boyd et quelques autres. Voilà, bon, ensuite c'est vrai qu'il y a une spécificité forte, hein, du libre au niveau historique, au niveau culturel, et quelque part le logiciel libre n'a pas vraiment eu besoin des communs pour exister, pour progresser, pour gagner certaines luttes. Mais c'est vrai que je pense que les rapprochements sont aussi intéressants, pour les raisons que j'évoquais à l'instant autour des questions de gouvernance, et peut-être aussi au niveau plus politique. Disons que le vocabulaire des communs, ça permet quand même d'inscrire les combats du logiciel libre dans un projet politique et social plus général, plus global. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Ça permet de, ne serait-ce qu'en termes d'affichage, hein, de dire, ben voilà, le logiciel libre, c'est pas simplement un truc d'informaticien ou de hacker, c'est, ça s'inscrit dans un projet politique plus vaste, plus global, qui porte une véritable alternative à la mondialisation néolibérale telle qu'elle a été conduite depuis quelques décennies. Et ça, il me semble que c'est aussi un élément qui est intéressant.
Alors justement, par rapport à sa naissance dans les années 80, est-ce qu'on peut voir une évolution des communautés libristes ? Tu commençais un peu à répondre à la question, mais est-ce que tu peux préciser ?
Alors je précise quand même que j'ai fait un peu de terrain, mais maintenant qui remonte un peu. C'était il y a plus de 10 ans maintenant dans ma thèse, donc je suis un peu moins au contact, hein, qu'en première année des communautés. Donc voilà, il faut prendre ce que je vais dire avec certaines réserves. Mais mon impression, disons, de là où je suis, c'est quand même que les communautés du libre ont aussi été percutées ces dernières années par les évolutions plus générales de la critique sociale, on va dire, au sens large. C'est-à-dire que toutes ces thématiques qui ont quand même pris une importance très, très grande, hein, autour des inégalités de genre, autour des inégalités de race aussi, bon, tout ça, ça a quand même interrogé un certain nombre de communautés, puisqu'on s'est aperçu qu'il y avait une homogénéité sociale qui était énorme, qu'il y avait une domination écrasante des hommes, et que cette domination était souvent problématique, qu'elle s'accompagnait parfois de comportements machistes ou misogynes. Donc bon, tout ça, je pense quand même que ça a fait réfléchir dans un certain nombre de communautés. Notre question, évidemment, c'est la question écologique. On s'est aussi aperçu, là, je pense, que l'informatique, même quand elle est libre, elle peut être critiquée, elle peut être remise en cause pour sa participation à une numérisation du monde qui a aussi, donc il y a des effets positifs, hein, mais qui a aussi des effets néfastes, notamment du point de vue écologique. Et donc, je pense quand même qu'il y avait un... Comment dire, il y a certaines croyances ou certains fonds culturels, on va dire, qui étaient très présents dans le monde du logiciel libre, hein, assez technophiles, assez blancs, assez favorisés socialement, qui a été interrogé finalement par ce qui s'est passé cette dernière année, avec aussi, on va dire, un effet générationnel, c'est-à-dire que bon, il y a eu, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a maintenant un an ou deux, beaucoup de polémiques autour de la figure de Richard Tolman. Et ça correspond, je crois, aussi quand même au fait qu'il y a une nouvelle génération qui arrive et que cette nouvelle génération porte des combats, parfois des valeurs ou des exigences qui n'étaient peut-être pas assez prises en compte par la génération précédente et notamment celle des grands-pères fondateurs du logiciel libre comme Richard Tolman.
Étienne, tu voulais intervenir ?
Oui, simplement pour profiter pour dire que le 7 juin, nous ferons justement un sujet sur les femmes dans les projets informatiques libres et le 14 juin, un sujet sur justement les enjeux de diversité de genre dans l'informatique libre. Donc voilà, juste pour rebondir aux propos évoqués.
Belle parenthèse. Alors, une question un peu peut-être justement polémique aussi hein, par rapport aux communautés libristes. Est-ce qu'il n'y a pas eu un échec partiel de l'utopie des logiciels libres à cause des GAFAM qui ont su s'approprier le discours, les outils et les codes du logiciel libre?
Oui, alors là, je ferai peut-être une réponse en deux temps. Disons que, bon, au niveau factuel, on va dire, il me semble qu'il n'y a pas trop de débat. C'est-à-dire le fait qu'il y ait eu une forme d'appropriation ou de récupération ou d'intégration du libre par l'industrie et par les GAFAM, c'est assez indéniable. C'est-à-dire que bah, non seulement on sait que le logiciel libre est devenu essentiel pour Internet ou pour les grands acteurs du numérique, hein. C'est devenu ce que la chercheuse Nadia Iqbal a appelé les ponts et les routes du numérique, hein. Les logiciels libres sont aujourd'hui les ponts et les routes du numérique. Donc voilà, ça a complètement envahi l'industrie numérique au sens large. Et puis il y a eu aussi peut-être une autre forme d'appropriation par l'industrie, qui est une appropriation qu'on pourrait dire culturelle, c'est-à-dire que toutes ces thématiques autour de la commune, enfin ces éléments de langage, tout ce vocabulaire de la communauté, de la collaboration, de l'ouverture, du partage. Bon, ça a beaucoup été repris, bon, et souvent à mauvais escient, ou peut-être de manière hypocrite, par les grands acteurs de la Silicon Valley et du numérique. Et donc, de ce point de vue-là aussi, il y a eu une forme d'appropriation. Bon. Alors, après, la question qui demeure, c'est est-ce que finalement, est-ce que tout ça, c'est plutôt une bonne ou une mauvaise chose? Bon, je pense que cette question-là, elle reste ouverte. D'un côté, on peut dire que le fait que le libre soit devenu si important, le fait qu'il soit devenu en quelque sorte mainstream, quelque part, c'est vrai que c'est un grand succès. Et d'un autre côté, on peut penser que c'est aussi le signe d'une forme d'échec, puisque quelque part, je pense qu'au début des années 2000, on pouvait penser que ce que portait le logiciel libre, à savoir le fait de contester, de mettre en crise les monopoles sur l'information des grands acteurs numériques, on a pu penser que ça allait affaiblir en fait ces grands acteurs. Et finalement, ce dont on s'est aperçu, il me semble, c'est qu'affaiblir les monopoles sur l'information ne suffisait pas à affaiblir les monopoles tout court. On peut peut-être le dire comme ça. C'est-à-dire que le libre a réussi, en partie en tout cas, à maintenir voilà, une ouverture de certaines ressources informationnelles. Mais par contre, il n'a pas du tout réussi à affaiblir les positions monopolistiques des GAFAM. Bien au contraire, on sait bien que ces monopoles se sont aggravés depuis deux décennies. Donc en ce sens-là, peut-être qu'il y a un échec du mouvement du logiciel libre.
Oui, alors c'est vrai que à une époque
on s'aperçoit que en, en, simplement, on s'aperçoit qu'il y a une appropriation aussi assez récente des États, des communs numériques, notamment parce qu'il y a des enjeux de souveraineté des données par rapport aux GAFAM, et que cette appropriation, elle n'est pas corrélée forcément à l'adoption de logiciels libres. C'est-à-dire que dans certaines institutions, aujourd'hui, qui se sont appropriés les communs numériques, je pense en particulier en France à la NCT, à l'IGN, à l'ADEME, on a des propositions très concrètes de favoriser les communs numériques, mais elles ne sont pas nécessairement associées à un discours et à un récit autour du libre, et plutôt à un récit autour de la souveraineté des données et autour de l'innovation collaborative. Donc il y a un déplacement en fait qui s'opère dans le champ du numérique, du libre, vers ces récits-là.
Même si c'est compliqué d'imaginer une souveraineté sans avoir finalement une transparence sur le code. Mais ça, c'est effectivement une question qui reste posée. Je vais me permettre une dernière question parce qu'on approche de la fin de notre temps d'échange. Alors, c'est vrai qu'à la fin des années 90, on a déjà vécu une forme de divergence au sein du mouvement libriste, hein, entre une séparation entre l'open source et le free software, le logiciel libre. Alors, je te laisserai rappeler un peu la différence, Sébastien. Est-ce qu'on serait pas à l'aube non plus d'une branche d'une nouvelle séparation qui distinguerait celles et ceux qui veulent continuer à défendre les quatre libertés, et donc une forme de neutralité vis-à-vis de l'usage, qui peut être fait des logiciels libres, ou vis-à-vis de celles et ceux qui vont souhaiter mettre en avant justement la nécessité de mettre le logiciel libre au service de la justice sociale, par exemple. Question un peu longue. Hein.
C'est une question compliquée. Pour rappeler la différence entre libre et open source, hein, ça c'est une distinction qui naît à la fin des années 90, quand un certain nombre de figures, comme Eric Raymond, donc Bruce Perens et quelques autres, créent l'open source initiative. Donc pour se dissocier en fait du free software, hein, du logiciel libre tel qu'il est porté par Richard Stallman et la Free Software Foundation depuis les années 80. Et donc la différence en fait c'est plutôt une différence on va dire philosophique, ou une différence de positionnement, c'est-à-dire que alors que le logiciel libre était toujours revendiqué comme un mouvement social qui mettait au premier plan une exigence éthique, l'open source va plutôt promouvoir donc les logiciels libres, les logiciels qu'on va donc appeler open source, sur la base d'arguments un peu plus pragmatiques, hein, sur le fait que les logiciels sont parfois meilleurs, sur le fait que ça permet de développer des méthodes de développement ouvertes qui sont plus efficaces, que ça permet d'économiser de l'argent pour les entreprises qui voudraient passer à l'open source, etc. Donc c'est plutôt une différence d'approche, une différence philosophique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être qu'on a un nouveau clivage depuis quelques années qui s'est mis en place, alors que peut-être moi je présenterai de la manière suivante. C'est-à-dire, d'un côté, on a un peu le logiciel libre canal historique, si je peux dire, hein, c'est-à-dire des gens qui pensent que vraiment les quatre libertés du logiciel libre, que vous connaissez toutes et tous, hein, l'exécution, la copie, la modification et la redistribution du logiciel, que ces quatre libertés sont quelque sorte des droits fondamentaux et que finalement, c'est jamais légitime de les remettre en cause. Il n'y a pas de bonne raison finalement de renoncer à ces quatre libertés ou à l'une de ces quatre libertés. Et puis l'autre position, ça serait de dire, peut-être qu'il ne faut pas être trop rigoriste sur cette question des quatre libertés, et qu'il est parfois nécessaire de transiger si cela permet d'atteindre d'autres objectifs que l'on va estimer aussi importants, voire plus importants. Par exemple, des objectifs éthiques ou des objectifs économiques. Alors concrètement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Ça peut vouloir dire qu'on va faire des licences qui ne vont pas être des licences libres au sens strict, mais qui vont dire, par exemple, ce logiciel, vous ne pouvez pas l'utiliser si vous l'utilisez dans un cadre, militaire, où certains types d'acteurs ne vont pas être en mesure d'utiliser ce logiciel, parce qu'on estime que ce ne sont pas des acteurs éthiques. Ou alors, autre exemple, ça va être des licences qui vont avoir plutôt des objectifs économiques. Là, ça va être de dire, vous ne pouvez pas utiliser le logiciel si vous ne contribuez pas en code à ce logiciel, ou si vous vous ne reversez pas une somme d'argent au projet pour participer également à son développement. Donc voilà, donc ça, sans rentrer dans trop de détails, je crois qu'on n'a pas trop le temps, hein, ça a donné lieu à de nouvelles licences. Donc soit des licences plutôt éthiques, soit des licences qui vont avoir un objectif économique de réciprocité. Ce sont des licences qui transigent avec les quatre libertés historiques du logiciel libre. Donc est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Il y a des avis divergents sur la question, mais en tout cas, voilà une manière dont on peut poser ce débat.
Très bien. On va pas surtout pas répondre à la question là maintenant, mais... Voilà, pour pas troller non plus, mais c'est un vrai sujet. C'est évidemment, j'imagine qu'en tant que chercheur, c'est une question extrêmement intéressante. Est-ce que on arrive dans les dernières minutes? Est-ce que je vous invite à rajouter peut-être le dernier message que vous souhaitiez faire passer suite à nos échanges, Claire et puis Sébastien. Claire, pour commencer peut-être.
Moi, j'insisterai sur la période qui s'ouvre là, à savoir sur ce que je perçois être un mouvement d'institutionnalisation des communs. Et de ce point de vue-là, on a quelques exemples que j'en ai cité certains. Et je suis curieuse de voir comment les choses vont évoluer, soit du côté du droit, notamment à travers des formes de régulation qui seraient instituées par les nouveaux codes juridiques à l'échelle des communes, notamment. Ça s'est déjà fait en Italie, mais ça pousse aussi en France de ce côté-là. Et puis le mouvement social qui est toujours aussi actif pour institutionnaliser ces formes de communs qui se nourrit désormais d'appels à projets et qui sont proposés par des institutions publiques. Et donc c'est à cela qu'on remarque que ces formes, que les communs s'institutionnalisent et a fortiori dans le champ du numérique. Et donc je suis curieuse de voir comment les choses vont évoluer d'ici à 10-15 ans. Afin d'avoir une sorte de baromètre de cette institutionnalisation et de voir comment ces formes de régulation, ces nouvelles formes d'organisation sociale aussi prennent forme dans le champ politique.
Merci Claire. Sébastien, pour conclure.
Oui, moi je ne vais pas être long, mais bon, j'irai dans le sens de Claire, en fait, peut-être avec d'autres termes, mais je pense qu'on a un moment où... Les changements à accomplir en matière écologique, notamment sociale aussi, sont tellement considérables qu'on a besoin de tout le monde et on a besoin des acteurs publics. Je pense que les communs portent une vraie alternative, mais qu'ils ont besoin aussi de l'État, ils ont besoin des acteurs publics. Et donc toute la question des années à venir, c'est comment est-ce qu'on réussit ou on ne réussit pas à articuler le développement des communs avec le soutien de ces acteurs publics, évidemment sans que les communs y perdent leur âme, sans qu'ils y perdent leur spécificité. Et donc la question de l'articulation entre communs et État, à mon avis, elle est majeure et elle est loin d'être résolue, mais je pense que c'est un des défis, en tout cas, de ces prochaines années.
Bien, merci beaucoup pour cette conclusion, Sébastien et Claire. On arrive à la fin de notre temps. Je vais repasser la parole à Étienne et je vous remercie avant de lui passer la parole. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci à toi.
Je rejoins bien sûr mes remerciements. C'était un échange passionnant à suivre.
Merci beaucoup.
Et bonne fin de journée donc à vous deux. Merci Laurent. Effectivement, nous allons à présent faire une pause musicale. Nous allons à présent écouter Airship par Thunderchild. Airship Thunderchild par Otto Almen. On se retrouve dans environ 2 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1.
Nous venons d'écouter Airship Thunderchild par Otto Allman, disponible sous licence libre Creative Commons, attribution CC BY.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Je suis Étienne Gonu de l'April, nous allons passer à notre dernier sujet. J'ai le plaisir de recevoir Vincent Calame, bénévole à l'April, pour sa chronique Jouons Collectif sur le thème du bug joyeux. C'est bien ça, Vincent ?
Tout à fait, Étienne. Alors oui, parce qu'en fait, à la fin de ma précédente chronique, en avril, Frédéric Couchet m'avait demandé de faire une chronique plus guillerette pour le mois de mai. Il faut dire que j'évoquais un bug dans une application de gestion financière de la Poste britannique qui a conduit en prison pour malversation plusieurs dizaines de personnes. Dommage, parce que sans cette demande d'être plus optimiste, j'aurais pu continuer sur ma lancée et décliner ma chronique. Après le bug qui envoie en prison, on aurait eu le bug qui divulgue vos données bancaires, le bug qui provoque des accidents, ou celui qui n'a pas encore eu lieu, le bug qui déclenche une attaque nucléaire. Bref, pas besoin de se creuser la tête pour trouver un sujet anxiogène. L'informatique est partout. Non, je vais respecter la consigne, je vais toujours vous parler de bug, mais d'une espèce bien particulière, le bug joyeux.
Alors quel est cet oiseau rare ? On dirait le nom d'un des sept nains dans les contes de Blanche-Neige.
Oui, tout à fait, nous sommes effectivement presque dans un conte de fées. Le bug joyeux, c'est celui qui apporte un peu de fantaisie dans un quotidien informatique austère. Ce petit grain de sable qui grippe une mécanique trop bien huilée avec des conséquences véniales. C'est celui qui vous prend de court, que jamais vous n'auriez pensé au cheminement qui a conduit à la révélation de l'erreur. En effet, je ne mets pas cette catégorie les bugs que nous intrusons nous-mêmes, nous les personnes qui codons, car quand on passe plusieurs heures à tourner un problème dans tous les sens pour se rendre compte que cela vient d'une faute de frappe, on n'a pas forcément le cœur à rire. Non, les plus grands pourvoyeurs de bugs joyeux, ce sont les utilisateurs et utilisatrices de nos logiciels qui ont comme une sorte de sixième sens pour trouver la faille improbable. Je vais prendre deux exemples pour illustrer mon propos. Il y a quelque temps, j'étais chez un client et une des personnes utilisatrices, pour me faire des suggestions d'amélioration, me fait une démonstration de la façon dont elle utilise mon logiciel. Bon, au passage, hein, c'est toujours très instructif d'observer sans rien dire une personne manipuler votre interface. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a de sérieux travail à faire sur l'ergonomie. Bref, toujours est-il qu'à un moment donné, la personne fait une série de manipulations qui l'amènent à un résultat totalement inattendu, qui de fait ne devrait pas exister. Alors, je vais pas entrer dans le détail de ce qui s'est passé, ce serait sans intérêt, mais plus d'un mois après, j'ai toujours pas compris comment en étant arrivé là. De retour chez moi, j'ai pris une sauvegarde la veille pour reproduire sur mon ordinateur à peu près le même état des données. J'ai cliqué un peu partout, j'ai fait un parcours improbable de retour en arrière, de saut dans l'historique dans mon navigateur, rien. Le logiciel s'est comporté comme s'il était censé le faire, aucune piste pour reproduire le phénomène. Mystère et boule de gomme.
Donc c'est souvent des personnes peu à l'aise avec l'informatique qui sont l'origine de tels bugs.
Oui, sans les mains pleines, comme dit l'expression. Parfois, on a presque envie d'avoir une explication magique à la chose. Le logiciel sait que la personne devant l'écran n'est pas sûre d'elle et en profite pour faire n'importe quoi. Il m'est d'ailleurs déjà arrivé d'être appelé pour résoudre un problème qui disparaît mystérieusement en ma présence. Cela dit, les collègues peuvent aussi être une source de bugs joyeux, pour le moins surprenant. Tout près de chez de nous, pour le site Livre à vous, par exemple. Il y a quelques mois, Frédéric Couchet me signale qu'une partie de mon script ne marche plus. Cette partie avait pour mission d'analyser une chaîne de caractères, récupérer des différents éléments, séparés par un simple tiret. Or, pour une émission particulière, il avait fait le copier-coller du titre complet sur un site web, et sur ce site, ce qui ressemblait visuellement à un tiret n'en était pas un. C'était un tiret typographique qui, d'un point de vue informatique, t'as pas du tout le même code que notre tiret du 6 qu'on produit sur le clavier. Là encore, j'aurais été bien en peine au moment de l'écriture du script de prévoir un tel cas de figure. Bon, vous allez me dire que je m'émerveille pour pas grand-chose, c'est vrai. Mais franchement, quand votre liste de bugs à corriger s'allonge, vous avez envie d'injecter un peu de poésie dans tout ça. Après tout, parfois la liste des demandes fait penser à un inventaire à l'après-vert.
Merci pour cette joyeuse chronique, Vincent. Et c'est vrai que c'est bien de chercher un peu de magie là où on peut la trouver. Je te dis au mois prochain pour une prochaine chronique.
Au mois prochain.
Super. Et nous allons faire maintenant terminer par quelques annonces. Alors, la 14e édition des Journées Réseau de l'Enseignement et de la Recherche se tiennent en ce moment, donc du 17 au 20 mai à Marseille. L'April y tient un stand dans le village associatif, pardon, et Eda Nano, administratrice de l'April, interviendra avec Olivier Langla dans la conférence « Logiciel libre à la recherche du bien commun ». Ce sera mercredi 18 mai, donc demain, de 15h10 à 15h30. Tous les ans, Code Lutin apporte un soutien financier à une initiative promouvant les valeurs du libre. Si vous avez un projet ou une organisation dont l'objet est de promouvoir la production et la culture libre en général, n'hésitez pas à candidater. Vous avez jusqu'au 26 juin. Plus d'informations sur le site qui sera en référence. Voilà, vous avez une liste de thématiques sur lesquelles vous pouvez intervenir. Si vous êtes du côté de Brest, l'association Infini propose aux membres de l'April, aux sympathisants et sympathisantes, et à toute personne qui le souhaite, de venir profiter d'un moment de convivialité à partager autour d'un apéritif. Ce sera vendredi 20 mai à partir de 19h30. Puisqu'on parle d'un moment de convivialité, je rappelle que l'April fêtait ses 25 ans fin 2021, et comme nous n'avons pas pu fêter comme il se devait cet anniversaire, nous avons décidé de quand même marquer le coup, et nous envisageons d'organiser un pique-nique en région parisienne. Il y a un sondage qui est ouvert pour cela, qui est accessible, donc on vous mettra bien sûr le lien. Et puis nous invitons à faire de même partout ailleurs en France. Voilà, si vous n'hésitez pas à vous rapprocher de l'April pour organiser des pique-niques vers chez vous. Alors un prochain April Camp aura lieu le week-end des 18 et 19 juin 2022 en présentiel à Paris et en distanciel. Tout le monde, hein, membre ou pas de l'association, peut participer en fonction de son temps, de ses compétences et de ses envies, ou juste peut-être pour venir nous rencontrer. Cela sert aussi à ça. Je vous rappelle aussi, bien sûr, voilà, de manière générale, vous pouvez retrouver les associations libristes et puis les événements libristes autour de chez vous sur le superbe site l'agendadulibre.org et pour retrouver tous ces événements. Tout ce que je viens d'évoquer sera bien sûr mis en référence sur la page de l'émission sur libreavoue.org/144. Alors notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Véronique Bonnet, Laurent Costi, Claire Brosseau, Sébastien Broca et Vincent Calame. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Isabella Vanni, que je remercie d'ailleurs puisque c'est elle qui a réalisé la programmation musicale très réussie de cette émission. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Elodie Daniel Girondin, Langue 1, ainsi que Samuel Aubert, ainsi qu'à sa fille Iris qui a participé au traitement du podcast de l'émission 143. Merci beaucoup à L2. Merci également à Olivier Gricot, le directeur d'antenne de la radio, et à Quentin Gibault, bénévole à l'April, qui découpera le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous trouverez sur notre site web libreavoue.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact@libreavoue.org. Et puisqu'il reste un peu de temps, je suis un peu en avance sur ce que j'avais prévu, de vous rappeler que Radio Cause Commune est une radio collaborative. Vous pouvez déjà, bien sûr, la soutenir par le don. C'est une manière importante de la soutenir, hein, elle a besoin ne serait-ce que pour s'acheter du matériel. Vous retrouvez bien sûr les informations sur le site de la radio, mais vous pouvez également nous faire des retours pour proposer des émissions, des sujets, faire simplement des retours pour dire ce qui vous a plu et déplu dans l'émission pour que nous puissions toujours les améliorer. Nous vous remercions bien sûr d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous. Et de faire connaître la radio Cause Commune, la voix des possibles. Il nous reste une minute encore. Ben, Laurent Costi, puisque tu es là, tu n'as pas eu ton mot de conclusion sur ce sujet des communs numériques. Alors je te prends un peu à chaud, excuse-moi. Qu'est-ce que tu en as tiré? Quels sont pour toi les deux éléments clés à retenir?
Effectivement, faut me donner. Merci pour le micro. Non, mais effectivement, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant l'intervention de Claire et puis de Sébastien. Et c'est vrai que ça, hier soir, à la présentation du dictionnaire des communs, se pose toujours la question de l'articulation des communautés qui finalement défendent des choses un peu communes à différentes échelles et puis qui donnent l'impression de pas beaucoup interagir. Et je trouve que c'est extrêmement important finalement d'essayer de faire se lier les deux, de faire qu'il y ait des interactions entre les communautés qui défendent les communs d'une manière un peu générale, qui touchent à beaucoup de sujets comme la santé. On évoquait la question des vaccins qui sont inégalement répartis. On faisait la différence entre justement un bien public mondial qui était dans les tuyaux mais qui n'a rien à voir avec un bien commun mondial, parce que le bien public mondial, qui va le gérer? Il n'y a pas de communauté mondiale, enfin de gouvernement mondial qui va pouvoir le faire. Donc il y a bien des enjeux aussi de politique et qui sont là pour essayer d'éclaircir un peu la gouvernance et puis faire que le monde aille mieux, quoi. Enfin, c'est un peu ça l'objectif des communs aussi, quoi. Voilà.
Bah, très bonne synthèse, ça me paraît très, très juste. Est-ce que tu souhaiterais réagir, toi, sur cette notion? Parce que je pense que c'est une notion qui te parle également, Vincent. T'es pas obligé, hein, je te prends à chaud, hein, tu n'as rien préparé,
non,
tu peux dire
oui. Les communs peuvent être joyeux aussi. Non, c'est important de pouvoir agir, on a toujours c'est anxiogène parce qu'on n'a pas l'impression de pouvoir agir, et le commun est un cadre d'action qui est très précieux parce que il y a une articulation entre les différentes échelles, à la fois locale et globale, et je crois que c'est très important là-dessus. Et donc c'est les bons lieux pour trouver d'autres personnes qui travaillent dans le même sens que nous.
Très bien dit. Et effectivement, la réponse est dans le collectif et dans les luttes collectives. Et je pense que ce que tu dis est très important. Ben, en tout cas, voilà. Merci pour d'avoir pris ce temps pour ces interactions impromptues, mais très intéressantes, et qui amènent une belle conclusion à cette émission. Donc voilà, comme je vous le disais, prochaine émission mardi 24 mai 2022 à 15h30 sur la question de la qualité web. Et je vous souhaite de passer une très belle fin de journée. On se retrouve donc en direct le 24 mai. Et d'ici là, portez-vous bien.